Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et jusqu'à 19h, c'est une tradition. On s'intéresse aux dernières infos du jour, on les décrypte, on les comprend, on zoome dessus grâce à nos grandes voix avec Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie. Et toute cette semaine, nous allons vivre le déconfinement à travers toute la France grâce à nos correspondants. Et ce soir, nous sommes à Lille avec Lionel Gougelot.
Bonsoir les grandes voix, bonsoir Lionel Gougelot depuis Lille, bienvenue.
Bonsoir à tous.
J'adore cette chorale, je ne m'y fais pas. Ève Roger, je vais m'intéresser à vous dans un premier temps parce que on parle beaucoup bien sûr de cette rentrée scolaire, un peu particulière même, complètement particulière, demain inédite même pour 1,5 million de scolaires, d'élèves. On a entendu le professeur Robert Cohen il y a une seconde. Bien sûr les enseignants ont pris les devants aujourd'hui, pré-rentrée et demain, quid de nos enfants? Ça va être évidemment bouleversant, ou sans doute, ou questionnant, en tout cas pour beaucoup de parents. Les enseignants, avez-vous eu des retours de ce premier jour?
Ah oui, alors il y a eu une conférence de presse du SNUIPP, qui est le premier syndicat du primaire. Et je dois dire que ça a duré une heure et c'était assez négatif. Hein. Beaucoup d'inquiétudes. Une sensation à la fois d'une date prématurée. Pourquoi si vite? Pourquoi le 11 mai? Et puis un sentiment d'abandon. Ils ont dit une phrase qui m'a frappée. Ils disent, quand le ministre dit on est prêt, les enseignants entendent, débrouillez-vous. Vous voyez, ils ont le sentiment d'être un peu jetés en pâture, comme ça. On a entendu le ministre ce matin à l'antenne d'Europe 1 qui disait le protocole sanitaire, on m'a reproché tellement il est lourd, tellement il est compliqué. Il fait 60 pages et c'est vrai qu'il a essayé de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour protéger à la fois les enfants et les enseignants. Mais je pense qu'il y a une vraie difficulté de communication entre le ministre qui dit il faut y aller, allons-y, ouais, et puis les enseignants qui ont le sentiment d'être un peu son bras armé sans être vraiment ni considérés, ni leur inquiétude doit être considérée. Et c'est vrai quand on entend le pédiatre Robert Cohen dire à quel point finalement l'école n'est pas un lieu dangereux ni pour les enfants ni pour les adultes, c'est vrai qu'on a du mal à l'entendre. Vous voyez, on a dit tellement l'inverse au début de l'épidémie que on a du mal à le croire. Ouais. Et je pense que petit à petit, je vous l'ai dit déjà, c'est comme un entraînement, quoi. C'est une petite rentrée. Il y a 10 élèves par classe. On s'entraîne. Et puis en septembre, comme ça, on sera bien, on sera au clair, on sera tranquille, quoi. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment important.
Espérons et effectivement rassurons malgré tout les parents demain qui vont laisser leurs enfants, parce que il l'a dit hein, le professeur, les enfants ne sont pas contagieux, quant à la charge virale elle est modeste voire nulle, ce sont ses mots.
C'est-à-dire que les risques ils sont deux à six fois moins.
C'est ça qui est important.
Exactement. Que les adultes.
Regardons les transports, parce que c'était aussi le gros point évidemment à scruter depuis ce matin. Emmanuel Duteil, les transports, ça a plutôt bien fonctionné et là on est à l'heure de pointe ou presque. Quid?
Oui, effectivement,
transports.
Des remontées que l'on a pu avoir soit de la RATP, soit de la SNCF, et également des constatations qui ont pu être faites par les excellents reporters d'Europe 1 tout au long de la journée, à l'exception d'un problème, mais qui semble plutôt être généré par la suite des inondations sur la ligne 13, hein, pardon pour ceux qui vivent hors de Paris, mais la ligne 13 du métro parisien. Ça s'est effectivement plutôt bien passé. Mais c'est assez logique puisque personne ne s'attendait à un véritable problème aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui le problème. Pourquoi? Parce que la reprise se fait véritablement en douceur, comme vous le disiez très bien à l'instant avec Ève Roger. Tant que les écoles n'ont pas véritablement repris, beaucoup de familles ne peuvent pas reprendre normalement le travail. Et par ailleurs, énormément d'entreprises ont adapté le retour à ce qui a été dit la semaine dernière par le Premier ministre. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en télétravail et qui peuvent le rester doivent le rester. C'est un point extrêmement important. Donc c'est pour ça que pour le moment, ça ne se passe pas trop mal dans les transports. Mais c'est pas parce que ça se passe bien aujourd'hui que ça va bien se passer dans les jours à venir.
Donc, bien évidemment. Faut scruter pour la semaine prochaine notamment.
Mais
ce sera une espèce de.
Mais Ève Roger qui prenait un très bon exemple pour l'école en disant c'était un entraînement. Il faut considérer que chaque jour qui se passe pas trop mal aujourd'hui dans les transports, c'est un entraînement qui se répète, Et puis, vous savez, comme ceux qui se préparent pour le marathon, on court un peu plus à chaque fois. Comme si je l'avais fait une fois dans ma vie en même temps. J'en sais rien, je ne sais pas comment on se prépare. Mais j'imagine qu'on fait comme ça. Et bien voilà, là c'est le marathon de la reprise.
Allez, le petit marathon jusqu'au Grand Est avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel. Transport et école chez vous pour cette première journée. On fait la doublette en quelque sorte parce que, on l'a dit, ce sont les deux gros points à scruter.
Oui, effectivement.
Il a parfaitement raison, Emmanuel, parce que ici aussi, on a bien remarqué que c'était en quelque sorte une sorte de journée d'observation, hein, aussi bien pour les opérateurs de transport que pour les usagers. C'est notamment vrai pour ce qui concerne les transports de la métropole illoise, hein, bus, métro et tramway. Il y avait une offre de 70% qui était mise en place ce matin. Mais bien, il n'y a pas eu de rush. Hein, il n'y a pas eu de rush dans le métro, ni même dans les bus. Les gens ont visiblement se sont réappropriés vraiment très progressivement leurs moyens de transport, ce qui fait que bon bah voilà, il n'y a pas eu d'embouteillage dans la gare de Lille par exemple. C'est le même scénario, hein, si je puis dire, du côté de la SNCF. Là on attendait 20 à 30% d'occupation des rames pour les trains régionaux. Bah c'était à peu près le cas, avec une particularité ici, c'est qu'il fallait avant de prendre son TER, il fallait avoir réservé sur internet un coupon pour pouvoir justement accéder au train, et ça avait été mis en place pour limiter l'afflux de voyageurs. Bon, ça a été plus ou moins bien compris par les voyageurs, mais la SNCF indique qu'elle va être relativement compréhensive pour ce qui concerne les prochains jours. Mais effectivement, la véritable inquiétude, ça va être d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, quand il y aura vraiment le retour au travail et que l'économie aura vraiment repris, quoi.
Alors, on va évidemment parler politique avec Michaël Darmon, parce que il s'est dit beaucoup de choses en fin de semaine et ce week-end sur un nouveau groupe qui commencerait comme ça à prendre ses aises et s'opposerait à Emmanuel Macron avec des députés frondeurs. Michaël Darmon, où en est-on et quelle est la réaction du côté de l'exécutif ?
Alors c'est vrai que c'est un peu le feuilleton en coulisses qui agite maintenant l'exécutif. Alors ça peut paraître très loin, hein, de tous les sujets qui nous préoccupent, et au premier plan, ça peut paraître effectivement pour une démarche un petit peu manœuvrière et politicienne, mais en fait c'est quand même fondamental, parce que ce qui est en train de se passer, c'est le début tout simplement de la fameuse recomposition politique qui est en train de se mettre en place à gauche pour 2022. Je m'explique, effectivement, la semaine prochaine, il y aura donc la création d'un 9e groupe à l'Assemblée. On l'avait déjà suffisamment évoqué comme étant se préparant. Maintenant, effectivement, cette scission va être effective. Elle sera composée d'une trentaine de députés réunis autour de Mathieu Orphelin, l'ancien marcheur à sensibilité écologiste. Et en fait, c'est tout le pôle gauche de la Macronie. C'est toute la deuxième jambe du en même temps qui s'en va. Et ouais, ça permet de comprendre à quel point, effectivement, c'est important, parce que c'est le système donc de dépassement des clivages, du en même temps qu'avait posé donc le candidat Macron puis le président élu, qui est en train de tout simplement de tomber.
En même temps, il y avait eu tellement de tergiversations. Finalement, tout ça est assez logique dans une démocratie et à un certain stade du mandat, Michaël Darmon. La question, c'est aussi comment prend-il les choses, Emmanuel Macron ? Il y a tout qui se télescope, là.
Effectivement, ce qui est logique, c'était que tout simplement cela continue dans une logique de rassemblement. Maintenant, on voit bien qu'il y a une fracture. Comment il prend ça ? Eh bien, je vais vous dire, de manière un petit peu, je dirais, faussement indifférente. D'abord, il a effectivement dit, hein, selon des proches qui m'ont rapporté ses propos, j'en ai rien à faire. De toute façon, j'ai toujours travaillé avec François Bayrou. Je continuerai à travailler avec François Bayrou. Pourquoi font-ils ça maintenant ? Et puis, dans un deuxième temps, au cours toujours des consultations ce week-end, eh bien, il a donné, sur la base de conseils qu'on lui a prodigués, il a accordé effectivement cette consigne en disant « il ne faut pas les exclure ». Il ne faut pas les exclure, parce qu'en fait, ils peuvent rester avec cette double appartenance, parce que comme ça, on dira tout simplement, eh bien, qu'un pôle gauche est officiellement constitué, et ça permettra de pouvoir élargir éventuellement un rassemblement pour l'élection présidentielle. En clair, il applique le vieux principe politique. Quand un mouvement vous dépasse, eh bien, vous feignez de tout simplement de l'accompagner ou de l'organiser.
Surtout ne pas les braquer.
C'est assez classique.
Oui, c'est ça. Ne pas les braquer, hein, pour essayer aussi d'avoir un œil continuellement.
Parce que l'enjeu est fondamental pour rassembler au-delà de son camp pour la prochaine élection présidentielle.
Oui, évidemment. On va se retrouver dans un instant, les grandes voix, bien sûr, avec d'autres sujets que vous allez commenter. Et puis votre première journée de déconfiné, ça a donné quoi ? Vous me direz ça à la fin. À tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie. Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1, votre grand journal du soir avec les grandes voix.
Emmanuel Duteil, la reprise pour les commerçants aujourd'hui, bien sûr, les coiffeurs en tête, que dire, hein, je crois qu'il y en a qui ont ouvert dès hier minuit, mais plus globalement, hein, les entreprises, ça y est, ont rouvert leurs portes, l'activité a repris, et comment?
Oui, effectivement, alors là encore, hein, de ce qu'on a pu aller constater directement du côté d'Europe 1, du côté là, des grandes enseignes notamment de l'habillement, il y avait du monde, mais alors attention, il ne faut pas se tromper, il y a du monde dehors qui fait la queue, puisque aujourd'hui, on n'a pas le droit d'entrer à beaucoup dans ces magasins. Donc, quand je vois par exemple sur le réseau social Twitter, il y a eu beaucoup de critiques en disant les gens n'ont rien d'autre à faire que d'aller s'acheter d'événements le premier jour du déconfinement. Moi, j'ai envie de dire, chacun fait bien ce qu'il veut. Si c'est un moyen de vivre son déconfinement, ouais, c'est pas mal. Et par ailleurs, ces enseignes et notamment les petits indépendants de l'habillement ont été bien évidemment extrêmement touchés par cette crise. Donc, semble-t-il, il y a effectivement un petit peu de monde qui retourne du côté notamment des grandes enseignes. En tout cas, c'est ce qu'on a pu vérifier. Tout en sachant que là aussi, ce lundi est une journée un petit peu particulière, puisque notamment en province, c'est quand même une journée où certaines boutiques sont encore fermées ou font des demi-journées le lundi. Ah. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir une vision globale de la reprise d'activité. Ouais. Mais là encore, hein, de ce qui nous remonte, c'est que ça se passe plutôt bien. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps un petit peu, Nathalie, d'aller vous balader aujourd'hui, mais pas très clairement... Partout, les protocoles de sécurité ont bien été mis en place. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, moi j'ai essayé d'aller chez Zara ou ce genre de choses pour voir hein, juste à quoi ça ressemble.
Ah, ça, bah, là, vous dites.
Non, je vous assure, vous savez, ça se saurait si j'étais doué en mode. Mais au-delà de ça, je peux vous dire que partout, okay, tout a été bien installé.
Bon, je reviens vous voir, Emmanuel Duteil. Bon, Lionel Gougelot, je voudrais, faites-moi une petite photo de Lille aujourd'hui, parce que évidemment on est dans le Nord avec vous. En termes de commerce, en termes de vie, en termes de voilà, de mouvement dans les rues principales, globalement.
Savez, on s'était presque habitué à voir, vous savez, la fameuse grande place de Lille avec la statue de la déesse. On s'était presque habitué depuis deux mois à la voir complètement vide. Et je vous assure que le fait de voir quelques promeneurs, quelques badauds ce matin, ça nous a fait presque tout drôle, quoi, finalement, de voir finalement cette place. Cette grande place de Lille réinvestie par les promeneurs et les badauds. Et là encore, je confirme ce que vient de dire Emmanuel Duteil. On a vu effectivement des files d'attente devant certains grands magasins comme la Fnac ou le Furet du Nord, le célèbre Furet du Nord, ou encore le Printemps, mais pas parce qu'il y avait un rush, tout simplement parce que eh bien, les distances de sécurité étaient respectées par les clients. Mais il y avait quand même donc effectivement... Voilà, une espèce de mouvement quand même hein, vers les commerces et l'envie de retrouver à travers la consommation et les commerces, de retrouver une vie normale. Et puis, l'autre image du jour, c'est le parc de la Citadelle, la fameuse Citadelle de Lille. Vous savez, un grand parc de promenade qui était fermé là encore depuis deux mois. Et bien justement, Martine Aubry, ce week-end, a obtenu une dérogation spéciale de la préfecture pour rouvrir ce parc de la Citadelle. Et là aussi, c'est tout à fait symbolique d'une vie qui reprend, d'une vie normale qui reprend ici à Lille. Et on a vu quelques promeneurs sous le soleil malgré un vent qui soufflait très fort aujourd'hui sur la métropole lilloise, mais il y avait du soleil et donc on a vu des promeneurs réinvestir ce fameux parc de la Citadelle.
Avec les bonnes distances et les masques qui vont bien. Michael Darmon, j'arrive dans une seconde. Eve, évidemment, une question sur les clusters hein, et les risques de retour de l'épidémie, ça trotte quand même dans tous les esprits hein.
Pardon. Ça, c'est sûr que quatre nouveaux foyers épidémiques, comme on peut dire en français, ça peut nous inquiéter. Hein. Il y en a quatre dans une réunion familiale, dans un collège, dans une entreprise agroalimentaire en Vendée, et même dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc, on a vraiment comme si c'était des cas types. Mais à chaque fois, il ne faut pas s'inquiéter. C'est vrai qu'à chaque fois, non seulement il y a moins de 10 contaminés à chaque fois, et à chaque fois, là aussi, c'est comme une sorte d'entraînement. À chaque fois, les ARS ont réagi et ont remonté la chaîne de contamination. Vous savez, c'est un peu comme au début de l'épidémie. On arrive à la contrôler, cette transmission du virus. Donc, il faut savoir que ça veut dire que c'est normal. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, parce qu'à partir du moment où on déconfine, il y en aura d'autres. Mais on sait maintenant les contrôler. Ouais. On a une capacité de test aujourd'hui qu'on n'avait pas au mois de février. Ouais. Donc, je pense qu'il faut être... C'est tout à fait normal. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette deuxième vague. Et c'est vrai que moi, j'y ai passé tout le week-end en me demandant, mais est-ce que cette deuxième vague va arriver ou pas
ouais.
et en réalité, j'ai interrogé tous les gens que je connais, je les ai appelés, et tout le monde, personne ne peut le dire aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a deux écoles. La première école qui dit la deuxième vague ne viendra pas parce qu'on est éduqué maintenant. On connaît la distanciation sociale, on a des masques, on a des tests. Donc c'est possible qu'on arrive, nous, mais c'est nous les acteurs de de cette possibilité.
Et puis la
deuxième école, alors qui est un peu plus contestée, contestable, c'est-à-dire, c'est toujours, alors je vais résumer, mais si on m'entendait, on va me dire que c'est faux, mais c'est quand même toujours cette idée de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'un virus infectieux, quand ils sont viraux, et bien ils se transmettent plutôt à l'hiver parce qu'on vit confiné. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va se déconfiner et qu'on va pouvoir se balader, qu'on ne sera plus obligé de rester dans les pièces parce qu'il fait froid et parce qu'il pleut, là il y a une possibilité que ce virus soit moins actif qu'en février. Voilà, en gros, deux écoles.
Alors ça, c'est ça.
Mais en réalité, je crois que même après, si cette deuxième vague ne venait pas, je pense que personne ne saura dire pourquoi. En tout cas, pas tout de suite.
On va se retrouver, les grandes voix, on va poursuivre dans un instant sur les relocalisations. Emmanuel Duteil, vous allez nous expliquer comment Bruno Le Maire voit les choses. Ce serait du donnant-donnant en quelque sorte. Et puis Mickaël Darmon, je reviens également vous voir. À tout de suite, les grandes voix.
C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Oui, avec les questions économiques qui sont prégnantes maintenant que le déconfinement est là. Emmanuel Duteil, Bruno Le Maire a dit évidemment banco aux relocalisations, bien sûr, avec les sommes qui iraient avec les aides qui iraient avec.
Oui, c'est ça. Il faut voir plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il a dit ce matin, le ministre de l'Économie, c'est « moi, je veux bien payer ». Il a pris l'exemple du secteur automobile. « Je veux bien payer. Je veux bien faire un plan de soutien à la filière automobile qui se trouve aujourd'hui dans une situation cataclysmique. Mais il faut des contreparties. Il y a deux contreparties. La première, on la connaissait, c'est-à-dire plus question de financer le moindre modèle thermique, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des modèles électriques, vers des modèles autonomes, vers des modèles qui consomment beaucoup moins. Donc ça, oui, pour mettre de l'argent si ça permet de financer cela. Et la deuxième condition qu'il a mis aujourd'hui, qui est une condition un petit peu plus nouvelle, il va falloir relocaliser en France. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant, puisque que ce soit Peugeot ou Renault, si on pense à nos deux principaux constructeurs qu'il va peut-être falloir aider, en tout cas Renault, on est déjà en train de les aider, ça veut dire ramener beaucoup d'emplois possiblement, puisqu'aujourd'hui, Renault produit énormément au Maroc. PSA produit également en Europe de l'Est. Donc, ça veut dire possiblement ramener beaucoup de compétences. Alors après, il n'a pas répondu à la question, est-ce qu'on est capable de produire des voitures au même prix que dans ces produits-là. Est-ce que les Français derrière, ou ceux qui achètent les voitures françaises, sont prêts à payer plus cher ? Mais il n'en reste pas moins qu'on voit bien que cette crise est en train de changer dans le logiciel commun quand même deux éléments importants. Et je crois qu'il est relativement sincère, le ministre de l'Économie, quand il dit qu'il voit tout à l'aune de la croissance verte. C'est vrai chez Air France, par exemple. Alors, ça va leur permettre de justifier des suppressions d'emplois. Mais chez Air France, quand le ministre dit qu'il n'est plus question que les vols à moins de 2h30 de Paris en train se poursuivent en avion au départ d'Orly, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on parle, je crois qu'on en parlait ensemble la semaine dernière, mais on parle de Paris, de Paris-Nantes, de Paris-Lyon, de Paris-Bordeaux. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est des éléments qui sont intéressants de voir ces deux points, la croissance verte et la possible relocalisation.
Mais j'ai envie de dire, mais avec le prix des voitures, comme vous le dites, parce que d'ailleurs le président de PSA, Louis Gallois, il lui a répondu, il lui a dit ok, mais est-ce que les gens sont prêts à payer leurs voitures plus chères?
Exactement, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans l'incantatoire aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins qu'il y a peu de moments dans la vie d'une entreprise où l'État peut faire pression sur elle. Et le moment où l'État peut faire pression, c'est quand il paye. Et là, il peut imposer des petits changements.
Un peu plus. Alors voilà, on verra. En tout cas, du côté de l'État, justement, Mickaël Darmon, y a du grabuge, mais ça, on le savait déjà depuis quelques jours. De la friture sur la ligne entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. 3 ans, le couple. Enfin, l'amour, normalement, dans le couple. Allez-y.
Oui, c'est écoutez, ça, oui, d'accord. Donc c'est une question ouverte. Je ne vais pas vous faire une théorie sur les 3 ans de l'amour dans le couple.
C'est comme vous voulez.
C'est parce qu'en plus on est court. Mais en réalité, effectivement, la question de l'avenir du couple exécutif, en tout cas, se pose de plus en plus du côté de Matignon. On estime vraiment off que peut-être après les municipales, vraisemblablement, il pourrait y avoir une décision donc du président de la République. Mais vous savez, il est assez surprenant, assez versatile, et donc on va dire que tout est possible.
Ah oui, quand même, parce que on entend quand même dans l'entourage d'Edouard Philippe qu'il est très en colère, colère.
Oui, il est colère, eux aussi sont colère. Ils ont été, ça, le déconfinement a tendu tout le monde, et il a effectivement reconnu lorsqu'il a fait son interview dans la classe en disant on est tous énervés par la tension qui a duré, une manière de reconnaître qu'effectivement c'était pas très facile. Mais là, il y a l'enjeu de réussir devant donc les Français ce processus de déconfinement. Et puis ensuite suite, bien sûr, il sera temps, et ça viendra quand même assez rapidement, il sera temps aussi de dégager le bilan politique, on l'a vu tout à l'heure, et d'autre part, de pouvoir justement lancer cette fameuse réinvention, si tant est qu'elle puisse exister réellement, comme l'avait annoncé donc le président de la République. Est-ce qu'il y aura un processus d'unité nationale? Quel corpus politique? Quel projet? Faudra-t-il changer de Premier ministre? Toutes les questions se poseront, et bien évidemment, la première d'entre elles, quand auront lieu la fin des élections municipales? Ce sera le marqueur de tout ce qui se passera après.
Bien sûr. Allez, en 15 secondes chacun, faites-moi votre petit tour de cette première journée de ce nouveau monde, première journée de déconfiné. Ève Roger.
Alors moi, j'ai deux choses qui m'ont frappée. D'abord, c'est les cheveux de mes collègues. J'ai jamais vu les hommes avec des cheveux aussi longs. C'est assez frappant. Il y a même Emmanuel Dutheil devant moi, d'ailleurs. Cette coupe lui va très bien.
Il
reste
bronzé.
Comme ça, voilà. Mais non, mais ça, voilà. C'est, tout le monde n'est pas bronzé. Et la deuxième chose, c'est les masques toute la journée. C'est extrêmement difficile à garder. Et en particulier quand on a des lunettes, il y a de la buée qui arrive. Enfin, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que là, vraiment, il y a un vrai travail d'éducation à faire.
Bon, alors voilà pour Ève Roger, les plus et les moins. Emmanuel Dutheil, alors?
Bien, moi, pour être très honnête, j'appréhendais beaucoup cette rentrée. J'étais relativement bien dans mon confinement, comme vous le savez, au fin fond de ma Vendée, où j'étais très heureux. Donc, j'appréhendais vraiment de me retrouver confronté dans une zone rouge, à la foule et à ce genre de choses. Et j'ai beaucoup apprécié retrouver mes collègues, je dois bien le reconnaître, retrouver une vie de rédaction, retrouver une réflexion en commun, autre que par le, téléphone. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, pour le moment, j'ai pas vraiment de points négatifs. Si les masques, parce que comme Ève Roger, je vois que dalle. Donc c'est vrai que je passe ma journée à me nettoyer mes lunettes.
Michaël Darmon, vous êtes confiné, déconfiné, vous pas encore, vous êtes encore un peu entre deux.
Oui, c'est un petit peu mon état général. Non, en réalité, l'énigme quand même de ce déconfinement, est-ce qu'on applaudira encore à 20h?
Voilà. Ah, moi aussi, ça me tracasse.
Ah, oui. Et pendant combien de temps?
Je me suis posé la même question. Bah écoutez, on sera là à 20h, je peux vous le dire. Et quoi qu'il se passe, on notera et on commentera à l'antenne en direct. Donc on pourra vous le dire, et de toute façon vous le remarquerez parce que vous serez certainement pas loin de vos domiciles. Je ne sais pas si Lionel Gougelot est encore avec nous depuis Lille.
Bah oui.
Parce qu'on va se retrouver. Voilà, on va se retrouver dans un instant. Vous aussi, alors dites-moi, Lionel.
Bah moi, j'ai passé l'essentiel de ma journée justement au contact des personnels enseignants pour différents reportages pour l'antenne d'Europe 1. Et moi, j'ai rencontré des personnels motivés malgré tout. Et surtout, vraiment dans l'attente de retrouver leurs élèves, même s'il y a cette pointe d'angoisse par rapport au virus. Mais je pense que l'envie de retrouver les élèves et l'envie d'enseigner prenaient le dessus, en tout cas par rapport aux gens que j'ai rencontrés aujourd'hui.
Mais vous m'avez pas parlé de vous. Hein.
Oh bah écoutez, moi, ça fait 3 semaines maintenant qu'on est retourné sur le terrain avec les autres correspondants d'Europe 1.
Donc,
effectivement, avec toujours les gestes de sécurité, je vous rassure, le micro au bout de la perche et le masque.
Bon, et Michaël Darmon nous dit qu'il est allé chez le coiffeur, il n'a pas voulu le dire on, mais je le sais. Voilà, rien de plus.
J'ai réussi.
Merci les grandes voix, c'était un plaisir. Merci, on passe la semaine ensemble. À demain.